dois dire ce texte, mais sans voix. Peut-être qu'il faut un moment de silence aussi. Je suis très touché par ce texte de l'exil, peut-être parce que ça me touche aussi personnellement, parce que c'est... Je m'excuse. Bon, je vais essayer de reprendre mon rôle d'animateur. Peut-être que ça me touche pour plusieurs raisons, parce que j'ai beaucoup d'amis haïtiens, mais aussi parce que j'ai deux filles qui sont elles-mêmes des exilées. Pardon. Parce que j'ai deux filles qui sont elles-mêmes des exilées. Bon, qui ne l'ont pas peut-être vécu comme ça, mais qui le savent, qui sont des Brésiliennes. Et donc, ça rejoint un parcours qui rejoint ma vie personnelle, c'est sûr. Mais en même temps, je veux me dire merci à Rodney de tenir une telle dignité dans l'exil aussi. C'est un exil souffrant. J'ai beaucoup aimé, enfin, plein d'images. Il a dit à la fin, l'exil, c'est la dignité des humbles. C'est très beau. Alors voilà. Cela dit, on a entendu trois personnes. On va essayer de parler un peu de tout ça. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Moi, je m'excuse, la mienne qui est un peu émotive. C'est comme ça. Oui, il faut...
Je ne saurais pas trop, moi non plus, quoi dire, mais au moins que c'est vraiment pour ça qu'on écrit, pour ces échanges, pour ces moments très importants, et où on a vraiment le sentiment de pouvoir rejoindre un autre être humain. Moi, personnellement, je sais que écrire m'a sauvé la vie, mais avant même de m'en rendre compte, j'avais trouvé dans les livres des autres, dès l'enfance, une raison de vivre, une raison de tenir à la vie. Et s'il n'y avait pas ce genre de voix, de texte, personnellement, je trouve qu'il y aurait souvent raison de désespérer. Mais je suis vraiment contente d'avoir entendu ça aujourd'hui. Et bon, pour l'anecdote, disons que aujourd'hui, je me disais, c'est un peu dommage, c'est mon anniversaire et puis je travaille d'une certaine manière. Mais c'est mon plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai eu de toute ma vie d'entendre ce texte-là. Merci.
Merci. Paul, et ensuite l'autre Paul.
Dans l'ordre, j'ai trouvé ça quand même assez remarquable, si on tient compte aussi de la diversité de manières, de ton, enfin. Mais il y a vraiment un point de rencontre, c'est, je donne dans l'ordre par rapport aux exposés, d'abord accident, ensuite mémoire traumatique, et ensuite j'ai retenu mémoire trouée. Donc, ça tourne autour du trauma. Je vous aime m'en dire ceci. Et je pense que ça fait comme prolonger tout à fait ce que tu viens de dire. C'est que je dirais que ça s'est fait très, très, très lentement chez moi. Quel que soit le registre, le ton, les thèmes, ce qu'on voudra, même les écrits les plus ludiques, à condition qu'ils qu'ils soient des écrits. Bon, je sais que c'est une gymnastique. Je suis profondément persuadé, en tout cas pour moi-même, mais pour les autres, qu'on ne peut écrire que depuis ce qui fait mal.
Claude Bert.
Oui, excusez-moi. D'abord, effectivement, j'ai été très, comme tout le monde, très touché par ce que l'on entend, on a entendu là. Comme toujours, c'est ça la parole de l'écrivain, celle qui fait renaître en nous. Et j'allais dire quelque part, celle qui nous donne une mémoire de l'autre, une part, et une mémoire qui appelle la nôtre. Il y a deux trois choses donc que je voudrais dire. La première, c'est cette histoire de l'exil. Et au fond, aussi bien Samira que l'ont évoqué d'une manière ou d'une autre. Et moi, ça m'a fait souvenance d'exil aussi, puisque je descends d'une forme de l'exil. Et je me souviens, et c'est aussi perdre la langue, l'exil. Parce que dans les mots qu'on en emploie et dans la langue qu'on parle, et c'est ça que peut-être on n'a pas complètement évoqué encore, c'est que les mots, et qui a été dit là, les mots ne nous arrivent pas neutres. Ils nous arrivent chargés. Ils nous arrivent chargés de souvenirs, qui sont des souvenirs de connotation, dirait-on, de souvenirs d'un lest, qui est un lest qui appartient à tous, ou bien qui appartient à une famille, ou qui appartient à un certain nombre de proches. Ils sont chargés de mémoire. Et je voulais dire deux choses sur cette cargaison des mots, ce que j'appellerais la cargaison des mots. Bon, et qui peut être intertextuel. Nous rappeler, c'était la jambe blessée de Rimbaud qui était évoquée. C'est-à-dire des mots qui soutiennent ce qu'on appelle l'intertextualité. Bon, mais on va pas faire d'intellectualisme. Mais qui veut dire simplement que les mots sont chargés de paroles dites par d'autres. Et de paroles des plus humbles aussi. Bon. C'est pour ça qu'il y a souvent des mots étrangers dans ce que j'écris. Et moi, ça m'a immédiatement évoqué ces grands-mères qui passent. Ma grand-mère italienne, arrivée en France, qui était pianiste à Florence, et qui, bien sûr, ravaudait des sacs, parce que lorsqu'un immigré arrive, les compétences qu'il avait ailleurs, il ne les a plus. Et qui racontait, parlait à ses enfants, et puis ses enfants, qui sont donc pour mes parents, mes grands-parents, et qui disait à qui c'est pas... Enfin, disait, mais arrête de parler ton charabia. Et cette arrière-grand-mère disant, mes figlio, en italien, hein, mes fils et mes filles, je ne vous parle pas un charabia, je vous récite Dante. Voilà. Et il y avait cette perte complète, hein, elle ravaudait ses sacs, alors qu'elle récitait Dante ou des chansons italiennes, qu'importe, hein, mais il y avait cette perte de la langue à l'intérieur qui travaillait. Et des mots qui donc restent chargés pour toujours dans l'histoire de leur cargaison. Et je voudrais peut-être qu'on est plus là, dans le récit finalement que dans autre chose, parce que c'est j'habite cette mémoire alourdie qui a été si bien citée par Samira aussi. Notre mémoire est alourdie parce que notre langue est alourdie. Et je voulais vous en donner un exemple un peu plus gai, si je puis dire, ou un peu plus, enfin, plus drôle, qui est, même si on écrit dans la douleur, et qui celui-là ne donnera peut-être pas écriture. Mais je voulais le dire en même temps comme un hommage au fait d'être ici. Vous écoutant, et je remercie de tout ce que ces mots ont fait naître en moi-même et ne cessent de faire naître, eh bien, il m'est revenu, non pas un souvenir, parce que qu'est-ce que ça veut dire un souvenir qui revient ? Mais il m'est revenu comment, sous un mot, existait un de ces souvenirs enfouis qui soudain le fait exister. Il y a un moment là que je veux écrire autour du Québec, du Canada. Bon. Et que je me sens si bien chaque fois que je viens au Québec, au Canada, et que, en même temps, j'y retrouve cette chaleur que vous avez de fait. Je dis si chaleureux. Et puis voilà que tout à l'heure m'est soudain revenue en mémoire cette chose-là. Parce qu'il y a, je voulais vous lire, je ne l'ai pas fait hier, et je ne vous le dirai pas, ce n'est pas le lieu, ce texte sur le livre La table, la lampe, qui est autour de la résistance, et qui parle de mémoire, et qui est une mémoire qui ne m'est pas propre, je n'étais pas né à ce moment-là, mais c'est une mémoire transmise à travers les uns et les autres. Et quand j'étais enfant, une fois j'étais couché, je devais avoir 3, 4, 5 ans, et ma mère m'a mis sur le dos m'a dit, ah, tu as froid, ça va pour te faire chaud, je vais te mettre cette canadienne. Et me disant cela, s'il suffisait du mot, ça serait de pas grand intérêt, je vais te mettre cette canadienne, dont imagine-toi que c'est un soldat canadien, quand ils sont venus nous libérer, en 1944-45, quand moi j'avais, ma mère avait donc 12-13 ans, et elle était à Toulon, ce sont les Canadiens qui sont venus, aussi bien français que francophones qu'anglophones. Et elle me dit, tu sais, j'étais toute petite, oh, je l'ai trouvé si beau, si grand. Alors, elle me dit, c'est vrai qu'il y a des Canadiens petits, mais il y en a de très grands. Bon, et pour elle, c'était cette image de jeunes hommes débarquant. Elle avait 13-14 ans. Cette fille, vous voyez, ça fait un peu sourire au moins. Avait-elle eu le choc de voir ces grands Canadiens débarquer? Et elle me dit, on n'avait pas toujours chaud, c'était un hiver, et ils arrivaient, ils avaient leur canadienne des tablettes de chocolat, et bien sûr, il m'en a donné une que j'ai mise sur mes épaules. Il nous l'est donné. Il avait donc donné cette canadienne, sa veste, ce soldat canadien. Bon, et tout à l'heure, ce matin, en écoutant, m'est revenu à l'intérieur du mot même. Et chaque fois que je viens au Canada, je me sens chez moi. Je vais à l'hôtel et je dis, je vais dans ma chambre et je dis, je vais dans la maison. Et la chaleur des Canadiens qui, elle, est totalement réelle, il y a dans ce mot quelque chose qui... Bon, et soudain, la mémoire de ce mot qui est mienne, sans être mienne, puisqu'elle remonte à cet anonyme soldat canadien, qui a donné sa canadienne à une petite fille sur la Côte d'Azur, près de Nice. Hein, et soudain, ce mot est chargé. Alors, c'est une anecdote. Ben, c'est une anecdote que peut-être dans ce texte que je veux écrire autour de... n'apparaîtra même pas, que j'offre simplement là, dans la spontanéité du mot qui vient. Bon, mais qui va être dessous ce texte. Il y a du cachet sous le texte, comme il y a la chanson... en créole, comme sous son français il y a du créole, comme sous mon français il y a de l'italien, il y a du patois perdu des vallées de l'arrière-pays niçois. Et j'ai un mot qui m'a beaucoup touché, il y a cette histoire des, peut-être parce que j'en viens, je suis d'origine paysanne et immigrée, des humbles, de ceux qui n'ont pas la parole officielle. Et qui, je dis dans un texte, quand ma grand-mère distribuait, dis-je d'un mon autre grand-mère, d'une même main, les œufs, la paille des œufs et les balles au maquisard pour la liberté. Cette paysanne qui avait pris le maquis et quand je lui ai demandé pourquoi, avait simplement répondu pour cette liberté justement au moment de la guerre. Pourquoi j'ai dit pourquoi, grand-mère, qui était une femme simple et qui m'a répondu cette phrase, ma fille, il y a des choses que non. Et voilà, j'ai été très émue, c'est tout ce que... Voilà, il y a des choses que non.
Alors, il y a Daniele Pieroni. Bon, alors là, le technicien m'informe que le micro, le problème, c'est qu'il y a des interférences ici. Ça dépend de l'endroit où sont placés ces appareils. Alors, bon, on peut aussi, si vous le souhaitez, ne pas parler dans le micro, mais enfin, c'est comme vous voulez.
Le discours que j'ai écouté, très touchant, m'a poussé à penser que à l'exil, la mémoire est très liée à l'exil et je dirais aussi la mémoire de la douleur et la douleur de la mémoire. Et on va tout droit à un sujet qui m'intéressait ce matin. J'avais pensé qu'il n'y avait pas encore parlé de ça, la mémoire qui peut sauver et la vie et la mémoire qui peut trahir la vie et le destin. Alors, et l'exil porte la conséquence du nostos. Pensons à l'Odyssée. Alors, la douleur du retour. Mais aussi comme le retour, le nostos, nostalgia, nostalgia. comme une ressource, comme une force qui garde celui qui est exilé. Donc la force de l'origine, la dignité, hein? On a parlé, Rodney a parlé de dignité. Et bon, la mémoire qui sauve, je pense à la légende de Scheherazade qui se sauve la vie en faisant trésor de sa mémoire. Hein. Elle raconte toute la nuit et se sauve la vie. Mais il y a, au contraire, celui qui n'est pas réussi à survivre à sa mémoire. Je pense à l'écrivain Primo Levi qui s'est suicidé étrangement beaucoup plus tard de son expérience du champ de concentration. Ou un autre écrivain, le grand poète Paul Celan, qui s'est suicidé dans la Seine. Et il y avait ce matin Juan Manuel qui avait parlé du fleuve. Hein. L'image du fleuve est vraiment le contraire de la mémoire, parce que c'est vraiment l'impossibilité de saisir des choses. Hein. Donc c'est le temps qui se perd. Hein. Et donc il y a ces deux faces d'une même médaille. Hein. La mémoire qui sauve, la mémoire qui met en danger la vie. Alors, je voulais dire juste ça. Merci.
Alors, il y avait Nicole Brossard et ensuite Rosemarie François.
Oui, alors, simplement quelques mots entre les fourmis rouges, les billes noires et bien sûr les grands-mères. Quelques mots pour remercier René, parce que pendant qu'il marche dans l'hiver et pendant que la neige neige, il m'a redonné aussi une partie de mon histoire littéraire, en mentionnant les poètes haïtiens des années 65 que je rencontrais, que plusieurs poètes rencontraient. Je pense à Michel Beaulieu, à Gilbert Langevin, à Jean Garcia, on était plusieurs. Et oui, je dirais merci de m'avoir redonné une partie de cette histoire littéraire. Et en même temps, le mot « dignité » que tu as prononcé, il m'est revenu au visage, parce qu'on était là, on avait 20 ans, on parlait de politique, mais jamais les poètes ne racontaient ce qui leur était arrivé en Haïti, ce qui était arrivé à leur corps en Haïti. Et c'est beaucoup plus tard qu'on a connu cette histoire. Et je voulais tout simplement te remercier.
Rosemarie François.
Je voudrais parler en reconnaissance, en gratitude. Je n'oublierai jamais cette rencontre. Jamais. Ce n'est pas la première fois que je vais à un colloque, mais ceci, je ne l'avais jamais vécu. J'ai l'impression, en 3 jours, d'avoir vécu 3 ans. J'ai appris que j'étais magicienne. Je me croyais sorcière. Maintenant, je sais que plus je suis magicienne. J'ai suivi avec vous la dérive des continents cet après-midi, l'exil accompli ou l'exil projeté, l'amitié. Et quand j'ai entendu Rodney prononcer la phrase « j'ai une mémoire trouée », j'ai pensé à un vers d'Israël Eliraz qui dit « Les trous du manteau, c'est aussi le manteau des objets de mémoire. Et un petit détail que j'oserais appeler technique, le suicide de Paul Celan est remis en question. Il y a des doutes concernant ce suicide. Je parlais de ce suicide dans la tour de Hölderlin à Tübingen, et une dame qui était là s'est vraiment fâchée en m'entendant parler de suicide, en me disant que c'était l'époque où on poussait dans la scène certains personnages. Donc je voulais apporter cet élément, non d'information, mais ce questionnement concernant la mort de Paul Celan. Voilà, merci.
Alors, Bertrand Gervais.
J'essaie de ne pas trop grincher. J'aimerais revenir sur une phrase qu'a dite Louis-Philippe Hébert, qui est « Toute chute est mortelle pour un magicien ». Je l'ai noté avec un point d'interrogation, me demandant « Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? » Et évidemment, à partir du moment où on complète la phrase, puisque la phrase au complet serait « Toute chute est mortelle pour un magicien du temps », je me suis dit que peut-être qu'en effet, à partir du moment où un magicien qui manipule et qui fait apparaître du temps chute, cette chute ne peut être que mortelle, ne peut être que définitive. Et j'ai trouvé que à ce moment-là, m'est apparu le fait que cette métaphore du magicien du temps était une métaphore parfaite pour l'écrivain. Parce que qu'est-ce que l'écrivain, sinon celui qui fait apparaître du temps? Celui qui fait apparaître du temps à partir du langage, à partir d'une parole. Et je pense que les deux autres lectures après nous ont bel et bien projetés dans cet univers du temps construit, du temps perçu. Et je me suis dit qu'en effet, donc, le magicien du temps, c'est bel et bien l'écrivain. Et on sait très bien que reprenons cette vieille assertion de Saint-Augustin qui disait « Qu'est-ce que le temps? Si on ne me pose pas la question, je le sais, mais dès l'instant où on me la pose, je ne sais plus. » Parce que le temps n'est pas quelque chose qui existe hors de nous, c'est quelque chose dont nous avons d'abord et avant tout la perception. Et on sait très bien que les perceptions sont essentiellement fugaces et très difficiles à comprendre et à saisir. D'ailleurs, quand Ricoeur reprend la formulation et la réflexion de Saint-Augustin, il déploie ce que lui va nommer le triple présent, donc cet arc entier constitué du présent, donc c'est notre attention aux éléments du temps présent, ceux qui passent, le présent du passé, notre souvenir, notre mémoire de ce qui s'est produit, et bien sûr, le présent du futur, cette attention pour ce qui viendra. Et Ricoeur reprend la réflexion de Saint-Augustin sur le chant, hein, et l'anticipation du chant à venir en fonction de ce qui est en train d'être chanté et ce que nous savons et avons perçu du chant passé, c'est bel et bien ce par quoi, tout à coup, le temps nous apparaît, mais en même temps, avec cette apparition du temps, l'apparition de la fiction elle-même, l'apparition des idées et le déploiement des idées dans des chansons, dans des chants et dans tout. Alors, le magicien du temps, l'écrivain comme magicien du temps, c'est bel et bien celui qui nous permet de voir apparaître, qui nous fait apparaître du temps, comme si le temps pouvait être une figure, et cette figure-là va se déployer pour prendre la forme de récits, de narrations, de poèmes. Et je pense qu'il y avait évidemment, parfois le hasard fait bien les choses, parce que tu partais avec cette métaphore du magicien du temps, et par la suite, Rodney et Samira, là, j'avais perdu ton nom, je m'excuse, et Samira, tout à coup, nous permettait de vivre ce temps-là et d'une façon extraordinairement vivante et très prégnante. On l'a vu en plus avec la dernière lecture. Donc, peut-être j'aimerais te reposer la question de « Ai-je bien compris ta phrase? » C'est plus ouvert que ça, là.
Oui, c'est plus ouvert. Oui, effectivement, c'est tout à fait ce qui se produit. C'est-à-dire que Le magicien, s'il chute, il chute hors du temps. Et chutant hors du temps, il disparaît tout à coup, finalement. Il crée du temps, l'écrivain crée du temps. L'écrivain, un peu comme le musement dont tu parlais hier, l'écrivain va partir d'un état, d'un moment bien particulier, d'une bille noire, et la diluer pour créer son histoire, son poème, son témoignage, son récit, peu importe. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe, et quand la petite bille noire est dans la main, il ne faut pas l'échapper, d'une part, mais il ne faut pas non plus tomber en dehors, je dirais même, de cette bille noire-là. Si, j'espère que mon explication est aussi confuse que, que le texte.
Que ma question. Alors, je passe à Naïm Katan.
Je trouvais que cet après-midi, la séance était très, très émouvante et vraiment, ça culmine un peu notre rencontre. D'abord, je voudrais dire un mot de Lévinas qui avait dit quand on existe parce que l'autre existe. Et si l'autre existe, ce n'est pas simplement parce qu'il est autre, parce que c'est notre responsabilité. Notre rapport à l'autre est un rapport de responsable de l'autre. Et on ne se découvre soi-même que par notre responsabilité à l'autre. Donc, on a beaucoup parlé des souvenirs d'enfance, de ce qu'on ressent quand on est enfant, quand on est jeune. De tout. Et il y a eu, ces dernières années, une accumulation de confessions et de retours à l'enfance qui, à mon avis, est une des conséquences de la psychanalyse. On se raconte, et on ne tient pas compte de l'autre. Parce qu'un écrivain n'écrit pas simplement pour se raconter, il se raconte parce qu'il écrit, c'est-à-dire il écrit pour qu'il soit lu, parce qu'il écrit parce que d'autres existent. Il n'écrit pas que pour lui-même. Bon, donc ce recours toujours à soi-même est une fuite, devant le réel et devant la responsabilité à l'autre. C'est une première remarque, et je crois que les communications de cet après-midi nous ont ramené à cette idée. Et je voudrais aussi faire une autre remarque, c'est que les trois communications étaient aussi sur le temps. Il y a un rapport entre le temps et la langue. Et Samira me comprendra. Moi, je viens de notre rapport de temps avec la langue. Je viens de ce que beaucoup appellent, et puis ce que je sais, la langue, c'est le rapport sémite. En hébreu et en arabe, enfin les deux langues où je suis né, surtout en arabe, il n'y a pas de futur et de passé, il n'y a pas de verbe être en hébreu, il y a le présent. Et tout est en rapport avec le présent, c'est-à-dire avec ce qui est dit. Et donc, la mémoire est vécue au présent. La mémoire n'est pas... quand on parle de passé, on parle au présent. Et quand on parle d'avenir, parle aussi au présent. Et c'est un rapport à la langue qui est un rapport très insidieux. Et quand Jean Grosjean, qui était un des personnes qui m'ont le plus influencé, qui est un grand poète, mais qui connaissait à la fois et l'arabe et l'hébreu, m'a dit à ce temps sémite en toi, tu vas avoir beaucoup de difficultés à le traverser, mais il ne faut pas que tu le traverses. Je ne sais pas si je l'ai traversé ou non, mais je sais que c'est une réalité. Et quand on parle de mémoire, il faut revenir de rapport de la mémoire à la langue. Et il y a un autre rapport à la mémoire, à la langue. Et là, je ne vais pas trop prolonger, mais je vais dire une seule petite autre chose. C'est que quand on apprend la poésie arabe, pré-islamique, on ne parle pas de soi, les poésies suspendues. Le poète parle de sa tribu. Il faut qu'il fasse l'éloge de sa tribu. C'est l'une des demandes de cette poésie-là. Et c'est pour ça que, comme Mohammed est venu, il a créé dans une autre langue et le Coran est une mise en doute de la poésie. Mohammed a dit les poètes sont des menteurs. Il faut s'en méfier. Mais il semble s'en méfier parce que lui, il voulait dépasser la tribu et dépasser aussi ce que le poète parle de lui-même en parlant de sa tribu. Et je crois que cette prépondérance de rapport à l'autre qui se trouve et dans la Bible et dans le Coran est quelque chose de très très important en littérature et que c'est très important à l'écriture.
Oui, alors, Paul Chamberlain, ensuite Claude Bert.
Oui, alors je me trouve à reprendre les choses là où Bertrand les a laissées tantôt, parce que il m'est venu j'ai repensé à quelque chose quand tu as dit, je te cite bien, tu me corrigeras si j'ai fait erreur, se souvenir de ce qui va se passer. Et j'ai pensé, puis en fait, j'ai pensé tout de suite à notre conception du temps est linéaire, etc. Dans le philosophe, les principaux penseurs du bouddhisme, Nagarjuna dit très bien, enfin, il montre très bien ce qui est très vertigineux, ce qu'on appelle le réel est sans commencement ni fin. Et c'est extrêmement, dans la mesure où on essaie de se plonger là-dedans, on se retrouve justement dans cet ici qui est un déitique qui, moi, c'est curieux parce que je trouve que c'est le minimum, mais comme le noyau dur de je, ici je. Enfin, c'est une expérience. Si vous frappez une cloche, un gong ou une cymbale, enfin ce genre de choses, vous écoutez attentivement, j'ai réitéré l'expérience et je trouve ça fascinant. Et tu me diras si ça correspond un peu à ta réflexion. C'est que le son, est-ce qu'il arrive ou est-ce qu'il s'en va? Et effectivement, c'est absolument indécidable. Parce qu'au fond, c'est plus remarquable, c'est vrai, de tout son, mais dans un son qui vient d'une impulsion et qui ensuite est filé, on peut pas décider s'il arrive ou s'il s'en va, il l'est les deux en même temps. Peut-être bien, oui. Et ça rejoint peut-être un peu aussi... là, je fais des liens, je veux pas forcer, mais... Dans ce que Samira disait, là aussi j'essaie de pas trahir en citant, une mémoire traumatique cherche à fuir la tâche aveugle, c'est bien ça? Bon, on sait que le trauma, c'est ce qui détruit la capacité même de se rappeler en termes cliniques. Et là, moi je me disais, c'est ce qui est terrible effectivement là-dedans, et ça va être un peu que le concept de répétition. C'est qu'au fond, la tâche aveugle, ou ce qui se joue dans la tâche aveugle, c'est ce qui cherche à nous rattraper. Ce que tu as dit, là aussi, j'espère citer sans trahir. La mémoire fait toute seule sa route. Elle nous rattrape parfois à contre-courant. Et donc, ça illustre parfaitement ce qu'on pourrait appeler le théorème de Louis-Philippe Hébert.
Oui, c'est très bien.
Le théorème de la bille noire serait mieux.
Ben, c'est ça, le temps qui est.
Alors, Louis-Philippe préfère parler du théorème de la bille noire. Claude Bert.
Mais c'est tout à fait ça.
Oui. Ah, non, mais.
Non, non. Ben. Oui, ça, c'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est une lecture qui est tout à fait appropriée au texte, c'est exactement ça. C'est cette espèce de sentiment magique, là, c'est un mot qui me vient tout de suite comme ça, au moment même de l'écriture, qui pour moi est une sorte de perception poussé à l'extrême, où l'avenir du texte, le passé du texte, le présent du texte se confondent et forment finalement cette fameuse bille noire qu'il nous appartient de diluer et dont on a la responsabilité. C'est excellent comme... ça complète et ça continue. Voilà.
Oui, alors Claude Baer.
Oui, c'était il me venait à écouter justement deux interventions. Quelque chose en ce qui concerne le sacré et le profane. Parce que lorsqu'il a été dit là à propos de la langue du Coran, de la langue de la Bible, qu'elles avaient affaire à cette immédiateté du présent, alors d'un point de vue linguistique, là, on pourrait être dans le rapport linguistique, chaque langue portant en elle une découpe du monde et qui est irremplaçable pour toute autre langue. Mais oui, chacune est déjà chargée de quelque chose qui est une représentation du monde. Nous, quand nous écrivons, nous n'entrons pas dans quelque chose de neutre. C'est, la langue nous est toujours donnée, elle vient d'avant nous pour partir après nous, et chargée, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une cargaison de sens. Mais cette idée du rapport à la cité, cette idée que l'on n'était pas sur la fiction du récit individuel, mais d'un récit collectif, là, dont vous venez que... non, vous dites, vous devez raconter la tribu. C'était pas l'enfance personnelle, disiez-vous. Non, mais rectifiez, si ça n'est point cela. Vous disiez, on n'était pas sur ce récit.
La responsabilité à l'autre.
Ah non, ça c'est Lévinas. Ouais. Moi, je parle de la deuxième partie de votre propos.
Oui, c'est qu'on ne parle pas de soi, mais on parle pas de soi, on parle de sa tribu. Mais c'est-à-dire, on rapport, c'est de donner ensemble.
C'était bien sur ça que je voulais intervenir. Quand c'était non pas sur Lévinas et sur le rapport à l'autre, mais sur le fait qu'on ne parlait pas de soi et de sa tribu, c'est-à-dire que la place du sujet par rapport à l'écriture n'est pas la même. Et que l'on trouve cela aussi en Grèce, chez Pindare, par exemple. Lorsqu'on prend les odes pindariques, lorsqu'on prend les premiers siècles de l'écriture, bon, les odes pindariques, elles sont, les premiers poèmes que chacun nous connaît, sont... doivent parler de la cité, ne parlent jamais de la personne, parlent de l'ensemble de la cité. Et il y a donc, au fur et à mesure, dans la littérature et au fur et à mesure de l'histoire littéraire, enfin, qu'on traverse là à grands coups, j'allais dire l'émergence d'un sujet individuel, et qui d'ailleurs s'interroge de plus en plus, effectivement, sur son origine, sur son traumatisme, sur son rapport à la langue, plutôt que sur une question collective, sauf lorsqu'on est effectivement, et là on voyait revenir du collectif dans une mémoire d'exil, etc. Et je me pose la question, ou du moins je pose la question, c'est que je ne vois pas qu'on puisse poser effectivement cette question de la parole, et de la parole de mémoire, sans poser la question de la place de la parole de l'écrivain dans la cité. Voilà simplement ce que je voulais dire. Et cette parole a fortement évolué au cours du temps. Et c'est pas étonnant qu'elle se fasse quelquefois, comme dans Césaire, que ce soit le nouveau cahier du pays natal, a-t-il été évoqué. Quand Césaire et Senghor parlent, ils parlent collectivement. Bon, et on est dans autre. Mais est-ce que maintenant quelque chose qui est une quête strictement individuelle n'atteint pas au collectif? Cela peut. L'exemple de Kafka, où sa recherche qui est totalement centrée autour de ce qui pourrait être même ses fantasmes, arrive à un être prémonitoire, ce qui fait que il n'y a pas dans l'écriture de possibilité de dire à l'avance quelle parole va avoir. Et je vous rejoins, une portée collective. Mais il est certain, c'est qu'elle n'est écriture, pour moi, que lorsqu'elle a une portée collective. Qu'elle parte d'un je, qu'elle parte d'un nous. Qu'elle dise je ou qu'elle dise nous, elle peut rester dans, si je puis dire, effectivement, le témoignage, le récit, comme là, par exemple, les paroles viennent de m'en inspirer, ou d'en inspirer à nous tous. Cela est, mais cela n'est pas l'écriture. La littérature, c'est quand elle fait par caisse de résonance collective, c'est-à-dire, pour moi, quand elle construit, et je crois qu'on retient là où on rejoint Lévinas, Dieringer, c'est quand elle participe ensuite d'une histoire collective. Et je l'entendais tout à l'heure, donc Jean-Philippe, dire où tu as dit à un moment donné, où c'était dans un couloir, ah ben, ce sera dans l'histoire littéraire du Québec. C'était étonnant, cette phrase soudain là qui surgissait. Hein? Non, mais c'était une par forme de plaisanterie que cette phrase était dite, bien sûr. À moitié.
Voilà, à moitié. C'est-à-dire que quelque chose, quelque chose constituait aussi le temps dont tu parles. Il est ce temps, moi j'étais, c'est pour ça que c'est, il est à la fois effectivement ce temps de l'écrivain. Il y a trois temps. Le temps de l'écrivain, le temps de la lecture et le temps de l'autre. Le lecteur présent et le lecteur à venir. Et il y a trois temps qui viennent comme ça dans la page, et peut-être qui ne peuvent se résoudre que dans le présent absolu dont parlait Bachot. Hein, ce présent du geste juste au moment juste qui va faire le poème ou le récit ou le trait de plume être exact.
L'heure juste.
Oui. Magicien. Le trait magicien. Ouais.
Alors, Alberto Ruiz Sanchez.
J'aime bien que pour les souligner les caractères paradoxaux de la manière dont on fait face à la problématique de la mémoire et du temps. Et parce que vraiment, on les constate tout le temps dans la dernière session, dans celle-ci. Et Louis-Philippe a voulu dire ironiquement, évidemment, que le temps n'existe pas. Mais la manière dont tu as écrit ton texte et tu l'as lu, c'était une horloge. Vraiment, je ne sais pas si tu l'as remarqué. J'ai senti tic-tac, 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 tic-tac. C'est-à-dire la musique que tu as mis dans ton texte, c'était vraiment qu'une horloge. Et ça a été très beau parce que j'ai voulu entendre pas seulement la signification, le jeu et les côtés ludiques, lucidité ludique, mais aussi les côtés temps. Tu as fait un exercice vraiment de pendule. Et la lourdeur de la mémoire de Samira nous a été communiquée avec une légèreté de générosité transparente, tu vois. Tu nous as ouvert la main, tu vois. Tu as parlé de la lourdeur, mais en faisant un geste de légèreté que j'ai beaucoup apprécié dans ton esprit. Non. Et Rodney qui a commencé avec l'image si inquiétante de fourmis. Et c'était aussi une manière de parler d'un temps. Et les rythmes de fourmis a été vraiment qui a mené l'horloge. Et ça a devenu un chant. Mais en même temps que tu parlais de l'exil, finalement, tu as fait un acte d'approchement. Tu nous as touchés tous. C'est-à-dire, tu as fait des témoins des fourmis qui nous sont mangés tous. J'ai vu aussi, c'est à la Guyane française, les endroits où les populations ont dû émigrer parce qu'il y avait l'arrivée des fourmis. Et quand les fourmis arrivent, alors tu nous as fait ça. Mais une des conclusions possibles, c'est que la souffrance et l'émotion de faire face aux problématiques de la mémoire, je vois qu'elle vient de ne pas s'accepter ou de la manière qu'on peut résoudre les paradoxes de la mémoire. Et je vois que beaucoup de souffrances envers la vérité, la fidélité, la lourdeur de la mémoire vient de ne pas s'accepter. Que dans notre culture, on a dit latine, mais moi je dirais latino-baroque. C'est-à-dire, c'est quoi le baroque? C'est la réponse à la réforme protestante qui croit que les choses sont ou ne sont pas. Alors, nous ne sommes pas seulement latinos, nous sommes des latinos baroques. Et la souffrance vient de ne pas s'accepter que du point de vue littéraire et du point de vue poétique, les choses sont et ne sont pas en même temps. Ainsi est la mémoire.
Paul Chanel Malenfant, donc ça va de l'autre côté complètement.
Merci. Alors, deux ou trois petites choses. Dire d'abord que je sais gré à nos collègues Alberto, Bertrand, Paul, Naïm, qui sont parvenus par l'efficacité fine de leur esprit de synthèse à bien illustrer certains liens de connivence entre les trois interventions, les trois textes qu'on a entendus. c'est que la charge émotive et l'intensité des affects du texte d'Éloi était telle qu'il aurait été dommage que soient mises sous le boisseau les visées réflexives des deux autres textes. C'est ce qui fait que je me permets, je suis plus à l'aise pour revenir un tout petit moment au texte d'Éloi, qui m'a aussi bouleversé, je pense, comme nous tous. Mais entre autres aspects qui m'a frappé dans ce texte, une fois non pas épuisé le coup de l'émotion, mais un tout petit peu de recul, c'est ce que j'appellerais sa polyphonie générique. Voilà un texte inclassable au sens où il était à la fois un magnifique poème lyrique, il était une sorte de réflexion politique, et en même temps, il pactisait avec des fragments narratifs extrêmement émouvants. Et maintenant que je prends un tout petit peu de recul, je me dis, enfin, il ne s'agit pas de résumer de façon aussi abrupte cette œuvre admirable, mais je me suis dit que tout se passait comme si quand la parole n'a pas de lieu qui lui soit propre. Hein, donc, quand la parole est quelque part en exil d'elle-même, elle n'a pas d'autre choix que d'occuper tous les autres lieux, donc d'occuper tous les espaces de la langue et tous les espaces génériques de cette langue-là. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a non seulement une réussite émotive dans ce texte, il y a une réussite tout à fait exemplaire de composition. Enfin, dernière remarque, et celle-là plus égotiste, on aura sans doute observé que Éloi a et peu intervenu dans le cadre de cette rencontre, tout comme s'il avait voulu s'absenter, et non pas prendre recul, mais se mettre tout simplement à l'écoute avant de nous soumettre un texte de contrepoint et donc un texte d'enchantement, comme pour que nous soyons préparés à sa propre magie. J'ai bien sûr observé qu'après mon intervention hier, Éloi a tout simplement dit « J'ai beaucoup aimé vos oiseaux du paradis ». Bon, alors bien sûr, je n'ai pas compris le sens de cette remarque. Et en même temps, elle m'a fait grand plaisir sans que je ne sache pas pourquoi. Je ne sais pas encore mieux pourquoi, mais il me semble que je comprends davantage après la lecture de son texte.
Merci, Paul Chanel. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Il est déjà peut-être un peu tard, 6 heures. Peut-être qu'on peut clore ici. Écoutez, c'est sûr que c'est mon rôle aussi de peut-être dire un mot de la fin. Je sens que ça pourrait vraiment pas rendre justice à tout ce qui s'est dit. Il y a d'abord des choses qui ne se résument pas. La texture, la vibration des paroles, des voix qu'on a entendues, qu'on a entendues aussi dans les lectures hier soir. Ça, c'est sûr que, bon, on en gardera mémoire autrement, mais je pense que c'est pas de l'ordre du concept. Il y a l'émotion, bien sûr, qui a été palpable à plusieurs moments, on peut le dire aujourd'hui, mais c'était le cas hier aussi, je pense, après la très belle exposé d'ouverture de Paul Chanel Malenfant. Je ferai une petite remarque en temps. Je ne peux pas m'empêcher de le faire parce que et ça vient d'une conversation que j'ai eue à midi avec Claude Baird. Je ne veux pas en profiter ici pour, parler contre les universitaires, mais je dois dire quand même que j'ai participé à beaucoup dans ma vie en tant qu'universitaire. On est plusieurs ici à être universitaires et je pense qu'il peut se faire des choses excellentes. Mais il reste quand même que je pense que c'est très rare que l'on atteigne cette qualité et à cette vérité aussi des interventions, des présentations et tout. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une parole d'écrivain aussi qui a circulé, là, qui je pense est très précieuse et qui n'empêche pas par ailleurs, bien sûr, qu'on puisse continuer à faire aussi du travail un peu plus scientifique et même si on a parlé de, finalement de théorème à la fin, on semblait retrouver un peu la science, peut-être. Bon. Alors, écoutez, bon, résumé, je vais quand même essayer, je ne peux pas rendre justice à tout, mais ce qui m'a, bon, sûrement un thème, une ligne de force, c'est l'ambiguïté du rapport à la mémoire et peut-être d'abord, peut-être davantage au souvenir, qui n'est pas la même chose tout à fait, je pense. Paul Chanel, là, il y avait deux citations contradictoires dans ton texte et qui, je pense, résumaient ça, qui venaient d'autres écrivains. D'ailleurs, je pense, les souvenirs réchauffent le cœur d'un côté, puis de l'autre, être heureux, c'est ne pas avoir de souvenirs, hein, c'est cette ambivalence-là. Mais il y a eu, plus généralement, c'est sûr, plusieurs exemples
je dirais, de négativité de la mémoire. Vous pourrez dire « la mémoire est une fausseté », phrase que Louis-Philippe Hébert a utilisée, mais depuis le début, Paul Chamberlain, à sa conférence d'ouverture, avait parlé des fausses mémoires, des mémoires inventées ou trafiquées, la mémoire des vainqueurs aussi, qui est évidemment, je pense aussi à travers l'exposé d'Alberto Ruiz Sanchez, évidemment la mémoire qui tient dans les commémorations, qui tend à figer un peu le récit historique, bien que il y a eu une intervention de Naïm Katan qui je trouvais intéressante, qui rappelait qu'il y a des commémorations rituelles qui sont une manière de revivre le passé et donc peut-être d'empêcher cette espèce de... que le fait que la commémoration soit une fixation pure et simple. Bertrand Gervais a parlé du passé comme loi qui transforme la mémoire en mémorial, en monument commémoratif. C'est une chose que tu as citée. Il y a eu aussi, je pense, beaucoup de références à... Diane Monique Daviau, ce poids, cette gravité, cet encombrement de la mémoire qui peut être une prison aussi, je me retrouve parfois prise au piège de la mémoire. Poids aussi, à l'inverse d'une mémoire interdite, on a parlé ce matin de censure, et je pense que ça aussi, on n'est pas beaucoup revenu là-dessus, mais je pense que c'est également important, surtout dans la perspective du roman familial. Rachel Leclerc qui a dit nous sommes convaincus elle parlait de ces jours où nous sommes convaincus que la mémoire est la plus grande supercherie, donc souvenir suspect, air du soupçon peut-être à l'égard de la mémoire. Je pense aussi à la communication d'aujourd'hui de Samira Negrouche, vivant cette surcharge de la mémoire. J'ai l'expression que j'ai citée aussi après sa communication, cette généalogie opaque, ce poids de l'héritage, mémoire qui devient traumatique. On peut évidemment aussi la communication de René Saint-Éloi avec cette mémoire. Alors j'avais noté, mais j'ai eu du mal, cette mémoire qui... serait toujours celle d'un temps qu'on n'a pas eu, un temps où on n'a pas eu le temps de choisir. Donc la mémoire de cette période où la liberté manquait. Donc de plusieurs manières, je dirais des formes de mémoire négatives, de mémoire lourde, de mémoire empêchée aussi. Et donc, d'une manière générale aussi, le rapport, le problème du temps, qui a été évoqué évidemment par Louis-Philippe Hébert, qui a commencé en frappant tout de suite avec « je n'ai aucune notion du temps », mais pour finir par le récupérer, briser en tout cas le temps des horloges, briser ou bloquer le temps historique. Il me semble que tout l'exposé initial de Paul Chanel Malenfant, en tout cas, allait à l'encontre de ce temps séquentiel, linéaire, chronologique dans lequel nous sommes pris. Je cite par exemple, à travers l'agonie de la mère, la langue de la naissance et la langue de la mort se rencontrent, libérées du poids d'un sens. Et il me semble que sens ici a à la fois le sens de signification, mais aussi de direction, ça va contre la flèche du temps. Mais je ferai un petit aparté ici peut-être pour dire que c'est quand même intéressant ce rapport des écrivains à la mémoire qui, il faut bien le dire, si on se replace dans le contexte scientifique contemporain, est extrêmement différent, hein, parce que s'il y a quelque chose que les physiciens, tous les gens qui travaillent en cosmologie et les biologistes et tout ont développé depuis 50 ans, c'est précisément la notion de flèche du temps, de temps irréversible. Enfin, on pense à des penseurs comme Prigogine ou Stephen Hawking. La flèche du temps, le temps irréversible, est un temps, c'est le temps de la vie créatrice, c'est ce temps aléatoire où la vie est possible. Et c'est sûr qu'en tant qu'écrivain, je vois qu'on ne peut pas penser le temps tout à fait de cette manière-là, mais on peut se demander aussi de quelle manière ce temps irréversible nous interpelle. Diane Monique Daviau a parlé d'un avant et d'un après, parfois qui pointait un peu vers ça, c'est-à-dire ces passages où tout à coup, on ne peut plus revenir en arrière et on a même du mal à se rappeler ce qui s'est passé avant. Alors, ce qui était frappant aussi, je vais un peu vite, là, c'était les stratégies par rapport à ces mémoires difficiles, impossibles, empêchées, lourdes, etc. C'est sûr qu'il y en a une qui est simplement celle, mais qui est importante, du devoir de mémoire, cette mémoire, cette mémoire familiale, cette mémoire de l'ancêtre oublié que Alexandre Voisard a évoquée et qui me paraissait intéressante. Et en même temps, elle laissait place à l'imaginaire, puisqu'il a conclu en disant « Si la mémoire a des devoirs d'inventaire, l'imaginaire revendique le droit à l'exploration et à l'aventure. » Alors, stratégie du musement chez Bertrand Gervais. Alors, le magicien du temps, évidemment, autre position possible. Stratégie peut-être aussi de la substitution chez Rachel Leclerc, quand elle a dit qu'elle remplaçait le souvenir numéro 1 par le souvenir numéro 2. C'était quand même assez cocasse. Stratégie du mouvement perpétuel chez Alberto Ruiz Sanchez, notamment à travers cette image assez frappante de la mouche allant dans toutes les directions. Je dirais aussi de la démémoire, en partie, en tout cas chez Juan Manuel Rodriguez, qui prend acte du fait qu'au fond de la mémoire, il y a un hors-temps. Et je pense que, de toute façon, ça recoupait aussi le propos de Paul Chanel Malenfant, une langue de l'origine, une parole du corps aussi, qui est finalement insignifiante et qui retrouve en même temps aussi l'enfance. Alors, je cite ce passage qui me paraissait assez remarquable. « Peuplé de noyers, ma parole est antérieure à ma connaissance, elle est innocente et en elle, il n'y a pas de place pour la mémoire. » Donc là, c'est une stratégie qui ramène peut-être la mémoire à l'immémorial. Je reviens aussi à la communication de Samira Negrouche, laisser remonter la mémoire, et je cite cette phrase qui, je crois, était à la fin. « Je vis la mémoire et l'écriture dans un même processus de déshabillage, une sorte de quête d'un instant ou de souffle. Oui, habiter enfin, un seul instant face à moi-même. » Donc, finalement, cette quête d'habitation, de présence à soi, à laquelle on revient peut-être toujours et qu'on entendait aussi dans la communication de Rodney Saint-Éloi, dans cette maison qu'il évoquait à la fin, avec des arbres dont il ne savait pas le nom. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il s'est trouvé à évoquer aussi, en cours de route, peut-être une autre stratégie, mais qui ne marche pas, semble-t-il, la stratégie du bananier que j'ai trouvé très éloquente, c'est-à-dire ce personnage qui transportait, ce que je trouvais extraordinaire, d'un aéroport ou d'un lieu à l'autre, mais finalement, c'est sans doute pas une solution. Je retiens quelques phrases aussi pour revenir, puisque c'est une boucle à Paul Chanel Malenfant, « La mémoire est une âme ». Et une autre citation, « J'ai voulu croire en tel murmure amnésique de ma mère, en l'ascétique pauvreté de sa propre raison, que la mémoire est quelque chose qui ne meurt pas. » Donc, finalement, mémoire, je pense dont on a mesuré tous les empêchements et les difficultés, mais qui nous laisse avec finalement ce sentiment que cette mémoire-là, donc, elle est peut-être difficile, mais elle est aussi ce qui sauve, ce qui ne veut pas mourir. C'est en gros ce que je voulais dire, c'est un peu rapide, et comme j'ai dit, je ne prétends pas ici, je pense que chacun va partir avec sa propre constellation, ses propres références, ses propres citations, ses propres notes. En terminant, je veux d'abord dire merci à tous les participants, les intervenants. Je pense que plusieurs, de toute façon, l'ont déjà fait, chacun à leur manière. Je pense qu'il y a eu une très belle qualité d'intervention, d'échange aussi durant ces deux journées. Mais je voudrais aussi dire merci aux personnes qui ont rendu tout ceci possible, c'est-à-dire, d'abord, peut-être merci d'avoir un autre technicien, Mathieu Arsenault, qui va faire en sorte que ces paroles-là vont pouvoir être relayées sur les ondes, on espère, avec pas trop de grinchements et de crissements et autres bruits parasites. Mais peut-être, hein, Mathieu? Merci. Alors donc, ça sera diffusé sur les ondes de Radio Spirale. Ceux qui ne connaissent pas, Spirale est une revue, un magazine culturel, mais qui a en même temps un site sur lequel on diffuse maintenant des émissions. Ça veut remplacer, et je pense que ça réussit dans une bonne mesure, remplacer la chaîne culturelle de Radio-Canada qui malheureusement a été liquidée à toute fin pratique ces dernières années. Merci aussi au comité organisateur, à mes collègues, Hélène Dorion, Denise Desautels, Naïm Catan, et bien sûr, le merci à Louise Dupré qui a orchestré en tout cas. Non, mais enfin, elle a dit, avec raison, oui, c'est vrai, il y a de la délégation dans ce comité. On est. Bon, Nicole, excuse-moi, Nicole. Nicole Brossard aussi, qui fait partie du comité. Et qui. Bon. Non, mais je veux surtout dire, oui, d'ailleurs, que Louise a succédé cette année à Nicole, qui avait fait un travail remarquable des années précédentes. Et je pense que de ce point de vue-là, c'était un dur contrat parce que Nicole avait vraiment placé la barre très haut. Et, mais je veux dire aussi, oui, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, sans doute, il y a de la délégation dans ce comité. On essaie chacun de faire des choses. Je pense qu'il y en a. Chacun fait un peu sa part. Il reste que le chef d'orchestre est très important. Et je pense, de ce point de vue-là, Louise, tu as joué tout à fait ton rôle. Alors, voilà. Merci.
Alors, je veux remercier... tous ceux, toutes celles qui ont accepté l'invitation du comité et qui se retrouvent ici. C'est un miracle. À chaque fois, c'est un miracle. Je pense que Nicole peut le dire, de voir que des gens partent de si loin et se retrouvent pendant 3 jours ensemble. Nous, on en rêve pendant 1 an. Et puis, vous voici. Je veux aussi remercier Pierre de sa merveilleuse animation. Je voudrais remercier Hélène qui a pris en charge la publicité, l'affiche, le livret. C'est beaucoup de travail. Ça semble très, très beau quand on voit ça une fois fini, mais ça ne se fait pas seul. Merci beaucoup, Hélène. Je remercie Denise qui a organisé, qui a animé cette lecture qui a été magnifique et que j'ai très, très hâte de réentendre sur Radio Spirale. Merci à Naïm de sa présence constante, de son appui, de son aide. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Et merci, Nicole. J'ai dérangé Nicole à plusieurs reprises cette année pour lui poser des questions. On a eu une réflexion toutes les deux, ou des questions, vous savez, très terre-à-terre. Je deviens très terre-à-terre. Et Nicole a été formidable. Elle a opéré le passage d'une façon merveilleuse. Et pour terminer sur une anecdote, elle m'a téléphoné en rentrant de voyage en me disant « Louise, comment ça va? » Alors, j'ai trouvé ça très touchant qu'elle se préoccupe autant de la rencontre alors qu'elle n'en a plus la charge et qu'elle a tellement fait sa part les années passées. Alors, merci beaucoup à tout le monde.